Alors, on arrive à l'heure 8. La dernière fois, on a regardé les livres de 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois et 1 et 2 Chroniques. Et on avait donc vu les monarchies d'Israël. On avait vu Saül, David, Salomon et puis tous les rois qui ont suivi. Et aujourd'hui, on va regarder les livres poétiques, à savoir Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Et on va voir qui les a écrits. Et ces livres, alors à part Job, font partie ont été écrits ou en grande partie écrits pendant la période des rois, David, Salomon et après. Je vous disais la dernière fois que la période des rois, en fait, on a un petit peu du mal avec la Bible parfois parce qu'on pense que c'est tout linéaire au niveau chronologique, et en fait il y a plein d'écrits qui se chevauchent. Pendant la période des rois, il y a les prophètes, Ésaïe, Jérémie, tous les petits prophètes, les livres de psaumes, proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques qui se retrouvent au milieu, donc on lit et puis on ne sait pas vraiment rattacher des choses. Donc on a vu la dernière fois la vision historique, le timeline, et aujourd'hui on va regarder des écrits, des choses qui ont été développées, des pensées qui ont été développées pendant cette période, pour la plupart, sauf Job, dont on va parler après, en premier. Ces livres, alors on parle de poésie hébraïque, Job, on va commencer avec Job. Après l'introduction, la poésie hébraïque, en première remarque, une grande idée, une différence qu'il y a avec notre poésie plutôt moderne, c'est nous on s'attache souvent à la longueur des vers et aux rimes. C'est toujours on pense quand on est à l'école, c'est les rimes, toujours les sonorités. Et pour la poésie hébraïque, même s'il y a l'idée de sonorité et de rythme, parce que c'était souvent des choses chantées, pour eux, il y avait surtout une grande importance accordée à l'association des idées. C'était souvent des rimes, on pourrait dire, d'idées, de pensées. Et il y a plusieurs manières de faire ça. Ils avaient, quand on parle de rimes, d'idées ou de sens, pour les technique littéraire, on parle de parallélisme, et on parle de parallélisme synonymique, où on va dire un premier vers, on va dire quelque chose, et puis on va répéter la même chose, mais en utilisant des mots différents, une deuxième fois. Donc ça renforce l'idée. Ou le parallélisme antithétique, où on va dire une chose, et puis on va faire un contraste dans le deuxième vers. Et ensuite, il y a la troisième forme qui est beaucoup utilisée, c'est le parallélisme synthétique, où il y a un premier vers qui va développer une idée et un deuxième vers qui va le renforcer en rajoutant quelque chose d'autre ou quelque chose de nouveau. Donc c'est intéressant, c'est une poésie qui, on se dit c'est de la poésie, on sent bien que ça a cette forme, mais on trouve pas les rimes qu'on cherche d'habitude dans la poésie. Ils avaient aussi souvent des structures au niveau des livres, parce que c'était des choses qu'ils apprenaient par cœur pour les chanter. Donc il y avait des utilisations dans la symétrie. Ils commençaient avec quelque chose, ils mettaient quelque chose au milieu, puis ils allaient remettre la chose qu'il y avait au début. Donc il y avait des choses comme ça. Ils utilisent aussi ce qu'on appelle des acrostiches pour les profs de français. Et c'est par exemple Un des exemples très connus, c'est le psaume 119, qui est le chapitre le plus long de la Bible. Et en fait, il y a des groupes de 8 versets, et chaque groupe commence avec la lettre de l'alphabet qui suit dans l'alphabet hébreu. Donc, ils commencent avec A, et puis ils ont un paquet de vers, puis B, puis C, puis etc. Et donc, ça donnait un petit peu un moyen pour eux de se souvenir aussi quand ils les apprenaient, quand ils les chantaient. C'est intéressant de noter aussi que c'est beaucoup de, On parle aussi de livres de sagesse ou de livres didactiques. Nous, on a souvent l'idée un petit peu dans le côté artistique. Parfois, on tombe plus dans l'art pour l'art, faire du joli pour faire du joli. Et eux, c'était souvent vraiment une idée d'exprimer de la sagesse, des choses importantes, mélangées avec le côté artistique. Bien sûr, on l'a aussi en français. Hein. Il n'y a pas de les poètes veulent exprimer des choses à travers leur poésie, mais parfois c'est un petit peu un mélange entre des idées philosophiques vraiment, comme on peut le voir dans Ecclésiaste, ce qu'on a vu les dimanches avec Pierre il y a quelque temps. Et c'est beaucoup de constatations souvent humaines sur la vie. On pense que beaucoup de ces livres étaient le fruit de beaucoup d'années de réflexion. C'était des choses qui c'était des dictons, par exemple les proverbes, c'est beaucoup ça, qui était le fruit de on va dire une réflexion humaine sur la vie. Et c'est intéressant dans le sens où il y a beaucoup de parallèles avec d'autres écrits antiques, beaucoup de proverbes qu'on retrouve dans d'autres cultures ou d'autres livres de l'époque, et on voit qu'il y a vraiment un parallèle entre ces livres dans le style et dans les idées avec d'autres livres. Évidemment, ici, ça a un saut divin avec l'idée que c'est inspiré et que c'est là pour une bonne raison. Il y a plein de choses à tirer de ces livres, et c'est aussi des livres qui sont, peut-être à part Job, des livres qui sont assez faciles à les regarder. Accessible. Contrairement accessible au niveau des réflexions, on peut lire une petite partie et en tirer quelque chose ou réfléchir à la chose. On a moins besoin du contexte comme on pouvait l'avoir dans les livres de l'Ancien Testament qu'on a regardé jusqu'à maintenant dans le Pentateuch, ou avec la chronologie où il y a plein de noms, on ne sait pas trop qui fait quoi, pour comment c'est organisé. Alors qu'ici, c'est peut-être des réflexions sur la vie. On peut en lire quelques-uns et ça passe très bien. Donc on commence avec Job, qui est un livre un petit peu, on pourrait dire, bizarre dans la Bible, qui vient un petit peu comme un ovni. On pense que c'est le livre ou l'histoire en tout cas la plus ancienne dans la Bible qui se relatait, alors évidemment pas plus ancienne que les écrits dans la Genèse, mais au niveau de la date où ça a été écrit, alors il y a plein de débats, mais l'histoire, on pense que ça se passe 2000 ans avant Jésus-Christ, à l'époque des patriarches. Donc c'est vraiment très ancien, en tout cas l'histoire. Le nom Job était très commun à l'époque, donc c'est difficile de savoir exactement qui c'est, on n'a pas d'autres références. Dans la Genèse 10-29, il y a un certain Jobab, fils de Yoktan. Alors il pense qu'éventuellement ce serait peut-être lui. Mais c'est un petit peu une posée là. On ne sait pas exactement. Mais on sait que ça a été accepté et admis par les Juifs dans le canon très tôt. Et certains commentateurs pensent qu'éventuellement ça a été une histoire orale, transmise oralement, et qui aurait été rédigée finalement sous Salomon par certains de ses sages à cause du style et de la manière dont c'est écrit. Et donc c'est un poème dramatique ou une sorte d'épopée. C'est Victor Hugo qui citait Job comme étant un chef-d'œuvre de la création humaine. Et la question et la chose qui est abordée dans le livre de Job, c'est la question de la souffrance humaine. Pourquoi l'homme souffre? Alors on va regarder l'histoire et puis on va regarder un petit peu les thèmes qui en ressortent, les idées. L'histoire est assez simple à résumer. Job est une personne influente et très riche, qui a une grande famille, qui a beaucoup de biens, qui est fidèle à Dieu, qui loue Dieu, qui est une personne pleine de foi et d'attention pour Dieu. Et le livre commence avec deux premiers chapitres intéressants où Dieu, où on a l'impression, où on se trouve au ciel et on voit ce qui se passe avec Dieu et Satan au ciel. Et d'une certaine manière, Dieu dit à Satan, regarde Job, c'est un bon gars, regarde, il est fidèle, il est bon. Et Satan accuse Job en disant, oui, mais c'est parce que tout va bien là. Et Dieu, si tu me laisses l'attaquer, le mettre à mal, il te laissera tomber. Donc Dieu lui permet de doter les bénédictions, la richesse qu'avait Job. Et donc, pour voir, et Dieu dit non, je pense que Job va être fidèle et va pas me maudire, en quelque sorte. Et donc, Dieu permet que Satan fasse ce qu'il a envie dans la vie de Job. Et donc, Job perd tout, perd sa famille, perd ses richesses, tombe malade, se retrouve dans une situation vraiment horrible. Et il a des amis dans l'histoire, il y a des amis qui vont venir le voir pour essayer de le consoler. Et en bons humains qui veulent consoler les gens, ils finissent en fait par un petit peu plus l'enfoncer en disant ben, tout ce qui t'arrive, c'est parce que tu dois avoir fait quelque chose de mal, donc Dieu te punit, c'est pas possible que Dieu laisse des choses comme ça arriver. Et donc il y a des interventions comme ça de ces personnes qui viennent, ses amis, il y a trois amis, Eliphaz, Bildad et Tsophar. Donc il présente différentes idées sur la souffrance, sur pourquoi Job souffre. Mais l'idée principale, c'est que Job doit être en tort et que donc c'est pour ça que Dieu le punit en quelque sorte et qu'il doit se repentir et qu'après tout ira mieux. Et Job, lui, il dit non, j'ai rien fait de mal, j'ai rien à me reprocher, je vois pas pourquoi Dieu me fait ça. Un autre ami arrive et lui reste un peu dans la même idée, mais en disant que la souffrance c'est un moyen d'éducation pour améliorer Job et que il faut qu'il se tourne vers Dieu, qu'il apprenne en quelque sorte de ce que Dieu veut lui montrer et que une fois qu'il a compris ce que Dieu lui dit, donc c'est un petit peu la même idée, c'est qu'il est en tort et qu'il doit faire quelque chose pour que Dieu l'enlève de cette situation là. Job vraiment continue à défendre qu'il se sent innocent et il en vient même un petit peu à douter Dieu, à dire Dieu pourquoi est-ce que ça m'arrive, je vois pas ce que j'ai fait pour mériter ça, etc. Et alors il maudit pas Dieu, il ne s'oppose pas à Dieu, mais il crie à Dieu en disant qu'est-ce qui se passe, je vois pas pourquoi je suis dans cette condition là. Et Dieu à ce moment-là leur coupe un petit peu tous la parole et leur dit vous avez tous tort en quelque sorte, et est-ce que vous voulez, il y a un petit peu une présentation de la grandeur de Dieu, et Dieu vient et leur dit mais moi je suis Dieu et vous êtes homme, et vous arrivez, vous essayez de me limiter à des petits raisonnements, est-ce que vous comprenez qui je suis, j'ai fait le ciel et la terre, j'ai fait tout ce qui existe, et vous arrivez, vous voulez expliquer pourquoi je fais une chose ou une autre. Donc il les reprend et il leur dit c'est moi seul qui suis capable de juger si quelqu'un est en tort ou pas, si je laisse quelqu'un dans une circonstance ou dans une autre. Et Dieu invite Job à comprendre ça et à accepter cette réalité de la souveraineté de Dieu. Et puis à la fin de l'histoire, Dieu va rétablir Job et va le bénir doublement de ce qu'il avait. Il va être restauré à la fin de sa vie.
Pour sa foi, parce que ça a pris beaucoup de foi de faire de sa part de toujours en Dieu, quoi.
Alors après, c'est un petit peu est-ce que c'est une récompense ou c'est simplement la volonté de Dieu de le bénir? Alors il est resté fidèle, même s'il a douté de Dieu, il a dit, mais je comprends pas, etc. Mais il a crié à Dieu et a demandé à Dieu de comprendre. Dieu lui explique pas pourquoi il a permis ces choses. Il dit juste, c'est moi qui décide. Et comprends ça et accepte ça. Donc c'est un livre qui évidemment est, reste bon pour nous même à notre époque. On voit les choses horribles qui peuvent se passer dans le monde, surtout avec les nouvelles aujourd'hui. La souffrance humaine est une vraie réalité pour ceux qui ont voyagé dans certains pays. Il y a des choses où on se dit, mais pourquoi est-ce que moi je suis né en France ou aux États-Unis et on n'a pas décidé, et nous on est riche comparé à des gens qui sont.
C'est là, c'est là qu'on nous a appris que quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, Dieu est toujours là pour nous, tu vois. Même si les choses ressemblent graves, tu vois.
Ah, c'est Dieu qui décide, c'est lui qui règne, et c'est difficile de comprendre, et on a souvent envie de crier à Dieu et de dire mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, souvent plus quand ça nous atteint, mais aussi parfois quand on voit les choses qui se passent dans le monde, ça nous interpelle, et on peut arriver à se dire mais Dieu, est-ce que tu es bon, est-ce que qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est intéressant de se dire, finalement, les hypothèses, à part accepter la souveraineté de Dieu, c'est de dire, soit il n'y a pas de Dieu, et donc finalement, il n'y a pas d'importance, etc. Ou alors de dire que Dieu est puissant, mais qu'il est, il n'est pas bon envers les hommes, que ça lui est un peu égal. C'était les idées à l'époque, et qu'il faut donc essayer de tout faire pour lui plaire et éviter sa colère, mais que finalement, on est un petit peu livré à sa volonté. Ou alors cette idée que Dieu est bon et puissant, et que la souffrance est vraiment ce que ses amis présentaient, une punition méritée pour des fautes, etc. Mais on voit que la Bible présente la souffrance de plusieurs manières. C'est pas toujours une punition pour quelque chose qui est mauvais. Paul parle de ses souffrances comme étant des choses que Dieu lui donnait pour qu'il grandisse, pour qu'il apprenne, des choses qu'il considérait comme bénéfiques, même si c'était pas agréable. Il y a d'autres cas où c'est des punitions, où Dieu dit vous avez fait n'importe quoi, il y aura la punition. Il y a d'autres cas où c'est pas expliqué, on sait pas vraiment pourquoi ça arrive. Et l'idée finale, c'est que c'est Dieu qui règne et qui est souverain pour décider de notre condition humaine, et qu'on doit s'en remettre à lui. Et en quelque sorte, ses amis, en fait, leur vision de Dieu et leur théologie est trop étroite. Eux, ils s'arrêtent à un cas, quoi. Non, la souffrance, c'est la punition. Point. Donc, ils expliquent tout comme ça. Et Dieu leur dit non, c'est trop étroit, vous n'avez pas compris. Et c'est intéressant aussi parce que ses amis écrasent Job, en quelque sorte. Parce qu'au final, il souffre et il se retrouve dans une situation horrible, et eux, ils viennent pour le réconforter. Au final, ils lui disent qu'est-ce que t'as fait, allez à vous, t'as fait quelque chose d'horrible, allez à vous. Et donc lui, c'est encore pire pour lui. Mais c'est aussi parce que eux devaient l'accuser, parce que sinon leur théologie était mauvaise, leur idée était mauvaise. Et pour nous, c'est aussi intéressant de se dire que parfois on peut rejeter les gens ou mettre des poids sur le dos des gens parce qu'on limite Dieu à certaines idées ou certaines manières de voir. C'est important de pas prendre un verset ou un concept et d'en faire le truc fini total, quoi. C'est évidemment parfois difficile, mais on va le voir plus tard aussi, mais l'idée que la justice de Dieu est pas toujours complète ici sur terre. Nous, on a une vision de la vie qui est Dieu venge-moi, si tu es vraiment là et tu es vraiment bon, tu vas rendre justice, tu dis que tu vas venger, bon bah vas-y quoi. Et l'idée aussi, c'est que nous on s'arrête à cette vie et que Dieu il regarde au-delà et qu'il y aura Dieu est juste, mais ce sera peut-être pas dans cette vie. Et c'est difficile à accepter. C'est difficile à te dire d'accord. Hein. Mais on doit croire et lui faire confiance qu'il est juste et qu'il est bon. Et c'est intéressant aussi de voir que Dieu n'accable pas Job dans le sens où il lui dit il y a des choses que tu comprends pas, laisse tomber. Notre foi et notre relation avec Dieu ne doit pas être faite d'une foi où on ne comprend pas et on ne peut pas dire Dieu, je comprends pas, Dieu, je vois pas. Alors, il nous donne pas toujours la réponse, mais Dieu veut qu'on vienne à lui avec nos questions, nos incompréhensions et nos problèmes de pour réconcilier certaines choses par rapport à lui. Les psaumes. Vous connaissez les psaumes ? En général, c'est le livre que les gens connaissent le plus de la Bible. Ils connaissent le psaume 23. C'est la maman de Bruno, Mireille, qui vient parfois, qui me disait que tout ce qu'elle savait de la Bible, c'était le psaume 23. Souvent, il y a pas mal de citations ou de choses qu'on connaît de ces livres. Les psaumes, c'est une collection d'hymnes chantés. C'est des chansons que les juifs avaient, qu'ils chantaient à différents moments de l'année. Il y en avait certains qui chantaient à certaines fêtes ou à certaines rencontres ou à différents moments de l'année. Et c'est un livre qui est une grande source de réconfort, où on voit toute une palette des émotions humaines face à la vie. On retrouve des choses comme l'adoration, la prière, la douleur, la louange, la confession, la repentance, la méditation. Il y a vraiment plein de choses, plein d'expressions, de sentiments. Ce sont des livres qui aident beaucoup dans des moments difficiles de la vie, parce qu'on peut s'identifier dans les choses qui sont exprimées et dans les sentiments qui sont exprimés dans les différents livres. C'est le livre le plus cité dans le Nouveau Testament. C'est un livre qui a été écrit par différents auteurs. Il y a 150 psaumes et alors il y en a 73 qui sont attribués à David. Il y en a 50 qui sont anonymes. Il y en a une.
Ce sont plutôt des chants. Ouais.
Oui, c'est l'idée. Ouais. C'était des choses en général chantées avec des instruments parfois. Ouais. On n'en connaît pas l'air, mais ça serait marrant de savoir comment il les chantait. Et donc il y avait vraiment, enfin il y a un aspect vraiment individuel avec les sentiments qui sont exprimés. Et il y a aussi l'idée un petit peu communautaire où ils les chantaient ensemble. Donc ça liait la communauté ensemble. Chanter ensemble, c'est toujours quelque chose qui rapproche les hommes. Je vous passe les détails sur les autres psaumes, qui les a écrits, mais il y a quelques autres écrivains. Et donc dans les psaumes, on voit beaucoup ces idées de parallélisme d'idées, ce que je vous ai expliqué, avec les contrastes, les choses qui étaient. On peut regarder quelques-uns juste pour voir ce dont je parlais. Par exemple, je vous avais parlé du parallélisme. On pourrait dire les comparaisons ou synonymiques avec le psaume 2. Verset 4. Où il est dit « Celui qui siège dans le ciel rit, le Seigneur se moque d'eux. » Et donc on voit que c'est la même idée, mais qui est répétée avec différents mots. Celui qui siège dans le ciel rit. Celui qui siège, c'est le Seigneur. Il rit, il se moque d'eux. Donc il y a ces deux fois la même idée, mais qui sont exprimées avec différents mots. Le parallélisme antithétique au psaume 1, si on regarde le psaume 1, verset 6, « L'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. » Donc il y a l'idée de la voie des méchants, la voie des justes. Il y a une opposition entre les deux. Donc ça, c'est des exemples. Il y en a plein, c'est évidemment plein de ce genre de choses. Et puis le dernier, si vous regardez au psaume 1, verset 3, « Il ressemble à un arbre Planté près d'un cours d'eau, il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc c'est des additions d'idées, des choses qui se construisent l'un après l'autre. C'est cette idée d'un arbre qui est planté près d'un cours d'eau. Il va donner son fruit en sa saison. Son feuillage ne flétrit pas. C'est des choses qui sont par rapport qui se complètent et qui construisent une idée de plus en plus de plus en plus de sens, on pourrait dire. Comme c'était des choses chantées, il y a aussi une importance du rythme et des pauses. Il y a différents mots qui reviennent, qu'on voit écrits parfois un petit peu entre pointillés, comme celle-là, qui veut dire pause. Donc souvent il y avait quand même une idée de quelque chose de rythmique et comme je disais, on connaît pas les mélodies et les, évidemment c'était pas écrit en français, mais on sait pas quels étaient les airs. Et ces psaumes, c'est des choses qui sont vraiment bonnes à lire pour dans le temps, peut-être pour prier Dieu et pour avoir un peu un rapport à Dieu.
D'approcher plus.
Au niveau de ce qui est exprimé, au niveau des sentiments et des choses qui sont dites, il y a vraiment on voit une réalité humaine. Parfois, on peut se perdre dans les histoires où on se perd un petit peu. Bon, c'est des récits, tac, tac. Un tel, il part en guerre, il a tué le roi, et voilà, Dieu a dit, c'est bien. C'est un petit peu, ça nous parle pas personnellement, alors que les psaumes, souvent, c'est des choses, à Dieu que c'est bon d'avoir le soleil qui brille sur moi, de bien manger, de bien boire, etc. Quel bonheur, merci. Quand on est dans la difficulté, Dieu, je crie vers toi, je me sens abattu. Pour différentes circonstances de la vie, ça peut être vraiment des livres qui nous permettent de voir un rapport à Dieu qui nous touche et qui nous aide, qui nous réconforte, certains disent que les psaumes sont comme un médicament ou comme des vitamines pour l'âme. C'est aussi des livres sur lesquels il est bon de méditer, de les lire pas en quantité, mais peut-être d'en lire un et de réfléchir à ce qui exprimait les sentiments, les circonstances. Les livres, donc je vous disais qu'il y avait différents écrivains. Les psaumes étaient divisés dans les écrits d'Israël classique en 5 parties, en 5 livres. Donc il y avait 5 grandes parties et où il y a un petit peu des thématiques qui se ressemblent. Et il y a la première partie qui parle plus de l'homme, le deuxième livre qui parle de la délivrance, la troisième partie qui parle du sanctuaire de Dieu, le quatrième livre qui parle de l'errance du peuple, et le cinquième livre qui parle de la parole de Dieu et qui parle de l'errance dans le désert ou l'errance dans la vie. Et puis le cinquième livre, c'est la parole de Dieu. Et certains font un parallèle entre les livres du Pentateuque, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le Nombre et le Deutéronome, avec ces 5 parties, et qui auraient un petit peu des similitudes. Dans les psaumes, on voit souvent des références à Jésus, des prophéties, des choses qui font référence à Jésus. Et Jésus lui-même, comme je vous disais, il est souvent fait référence aux psaumes dans le Nouveau Testament. Et c'est notamment Jésus qui souvent va dire, les psaumes parlent de moi, il y a tel verset qui dit ça, tel verset qui dit ça. Et donc il y a beaucoup de références à Jésus dans les psaumes. Et évidemment, nous, dans notre étude, on peut pas s'attarder dessus, mais on peut aller regarder. Et c'est très intéressant, encore une fois, l'idée de prophétie dans la Bible et de Jésus qui est annoncé avec beaucoup de détails Alors il y a quelques thèmes qui ressortent. Évidemment, les psaumes, c'est tellement, il y a tellement de choses à voir que c'est difficile d'en tirer quelques-uns, mais j'en ai sorti quelques-uns que je trouvais bons. L'idée que Dieu règne et souverain sur tout l'univers, même si parfois on a l'impression que non, et que même dans sa grandeur, il nous accorde individuellement de l'importance. Il veut une relation spécifique avec nous. Il a une vision qui est en même temps tellement au-dessus de nous qu'on ne peut pas comprendre, et qui en même temps sait quand on a faim, sait quand on a besoin de quelque chose, et n'est pas complètement indifférent. L'idée que Dieu exerce sa providence, qu'il agit. On avait parlé de l'idée qu'il y a ce mélange entre sa volonté souveraine, le fait qu'il agit, qu'il fait quelque chose, et en même temps que nous, on doit décider et agir, nous, dans la vie. Et donc ce mélange des deux, on le voit dans les psaumes, et on voit sa tendresse pour son peuple. L'idée que c'est un père qui a pitié de ses enfants, que c'est un berger qui s'occupe de ses brebis, il y a la tendresse de Dieu qui est montrée avec beaucoup d'imagerie qui nous permettent de le comprendre bien. Encore une fois, cette idée que Dieu est juste, que tout ce qui se passe dans la vie ne lui échappe pas, il voit. Et qu'il y aura un jugement, peut-être en partie ici, mais surtout après, et qu'on doit s'en remettre à Dieu, ne pas être découragé, mais s'en remettre à Dieu et savoir et lui faire confiance qu'il va avoir la victoire sur le mal dans la vie. Et puis c'est aussi un livre qui nous rappelle aussi la création de Dieu qui parle de lui, qui parle de sa grandeur et de sa beauté, et qui nous rappelle comment regarder la création, le monde.
Le dernier sang qui dit tout ce qui est vivant, tout qui respire, ouais.
Et cette idée que le monde porte l'empreinte de Dieu en quelque sorte, et qu'en regardant la beauté du monde, on peut voir la beauté de Dieu. On verra dans Ecclésiaste après, mais souvent dans les... On peut lire un petit peu et se dire bon, il faut vivre pour Dieu, il faut être. Parfois dans la religion chrétienne, il y a eu des périodes où c'était très austère, l'idée que Dieu veut une foi austère, quelque chose de. On ne s'amuse pas, hein, il ne faut pas des mouvements où il ne faut pas de musique, il ne faut pas danser, il ne faut pas. Et la réalité, c'est que la Bible nous montre un Dieu qui a créé la nourriture, qui a créé la beauté, qui a créé. Ce qu'on mange, ce qu'on voit, qui nous a donné nos sens, et qui veut qu'on profite aussi de ces choses. L'idée qui revient dans l'Ecclésiaste, c'est simplement que ça ne doit pas être notre objectif final. C'est pas le but in fine de la vie que de profiter, mais que c'est des choses qui viennent dans la vie et que Dieu veut dont Dieu veut qu'on profite dans la vie. Et donc les psaumes permettent de voir aussi comment les psalmistes, les gens qui écrivent, voient la beauté de Dieu dans la création. Et c'est toujours un bon rappel. Proverbe, c'est un livre avec un... On pourrait dire que c'est un recueil de maximes, ou un recueil de sagesse. C'est évidemment on sait ce que c'est que des proverbes, ça a été en grande partie écrit par Salomon, dont on sait que Dieu lui avait accordé une grande sagesse, ce qu'on a vu la semaine dernière. Et ici c'est pas vraiment des argumentations ou des raisonnements, mais c'est plutôt des expressions de vérité toute faite. Voilà, c'est telle chose est vraie. Et c'est comme ça. Et donc, c'est le fruit, comme je vous disais, de sans doute de beaucoup de cultures et de l'époque. Et on retrouve certains de ces proverbes dans d'autres écrits. Il y a l'idée que c'est des choses qui venaient. Et le livre est écrit comme un père qui veut apprendre la sagesse à son enfant, à son fils, en lui disant voilà ce qui est important à retenir dans la vie, telle et telle chose sont importantes, voilà comment vivre.
Ça, c'est même mon père, toujours tu le sais avec moi ça. Quand j'ai grandi avec lui, toujours quand on me posait des questions à propos de quelque chose qu'il ne comprenait pas, à propos de ce que ça se passe comme ça, il avait toujours ce proverbe pour m'expliquer.
Ouais.
On peut trouver beaucoup de thèmes.
Donc ça aborde les relations parents-enfants, la croissance, grandir dans la vie, le service de Dieu, la lutte contre la tentation, des choses de la vie pratique, la recherche de la vérité, la futilité des richesses, certaines situations dangereuses, connaître Dieu, des idées sur les époux et épouses. Et c'est vraiment l'idée de sagesse... savoir comment vivre. Parfois, la sagesse, dans le monde moderne, on tombe dans la sagesse un petit peu qui sert à rien. On peut savoir, les idées des astronomes qui peuvent nous dire qu'il y a des étoiles et peuvent nous dire les noms d'étoiles à des millions d'années-lumière. Mais après, savoir vivre au jour le jour... s'ils savent pas se faire cuire un steak, ben c'est problématique aussi. J'ai toujours, il y a cette image dans la culture. Vous connaissez cette image du professeur Folding, qui est brillant, qui va faire des équations tout le tableau, mais qui sait pas se faire cuire quelque chose ou qui arrive pas à faire ses lacets, quoi. Et là, on est dans de la sagesse pratique, dans de la sagesse. Voilà comment vivre. Et la sagesse, le livre nous le répète, ça commence avec la crainte de Dieu, le respect de Dieu, l'idée que notre vie doit être vécue en se disant Dieu existe et qu'il va nous juger. Et que la motivation pour faire ces choses, c'est de se dire il y a un Dieu. Si on enlève Dieu de l'équation, s'il n'y a pas de Dieu, s'il n'y a pas de raison de penser qu'il y a un Dieu, à ce moment-là, c'est pas très grave, on peut faire ce qu'on veut, et puis voilà. Mais si on se dit qu'il y a un Dieu et qu'il va juger, c'est ce que je disais dans les premiers cours, notre vision du monde, s'il y a Dieu qui existe et qu'il va juger, ce que je fais maintenant, ça a de l'importance. S'il n'y a pas de Dieu, c'est une chose, mais si Dieu me voit vraiment, si ce qu'on voit dans la Bible est vrai... Quand je fais n'importe quoi, même en privé quelque part, Dieu va le savoir et Dieu va me punir mais ça conditionne notre manière de vivre. Et donc c'est quelque chose.
L'intelligence et la sagesse. Parce qu'on peut être intelligent sans être sage. Mm-hmm. C'est ça ce que mon père disait toujours. Parce que je demandais toujours, alors si on prend l'exemple d'Hitler, par exemple, il était méchant, et puis ça m'était juste petit, je dis ça. Mais alors, mais il était aussi un grand leader de l'armée. Donc, on peut mal dire, alors qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, mais alors il était intelligent, mais pas sage. Tu vois la différence? C'est pour ça que la sagesse, on la trouve grâce à Dieu. L'intelligence, on peut être intelligent et s'en fouler la vie, mais voilà, c'est vraiment la sagesse qui est là.
C'est, encore une fois, on peut être très intelligent et se dire bon, je vais arriver à obtenir ce que je veux, mais si ce que je veux, c'est pas la bonne chose ou c'est pas ce que Dieu veut, finalement, c'est pas de la sagesse. Et c'est aussi l'idée de la sagesse, c'est aussi l'idée d'investissement pour l'objectif final. On peut avoir des décisions, savoir, il faut que je fasse le bon choix juste pour le résultat maintenant et aussi l'idée d'investissement à la fin. Et c'est cette idée, encore une fois, que Dieu existe et qu'il va nous juger. Et donc là, c'est vraiment plein de petites idées, souvent qui n'ont pas de relation les uns aux autres, parfois un petit peu plus. Et là aussi, on peut vraiment prendre et les décortiquer, les regarder un à un et réfléchir beaucoup méditer sur les significations. Le livre, évidemment, nous explique que c'est Dieu qui est le sage par excellence et que c'est lui qui sait tout. Il y a aussi l'idée que la vie est unie. Il n'y a pas de... Nous, on aime bien dire, bon, on a notre religion le dimanche matin, on vient faire notre petit truc le dimanche matin, puis le reste de la semaine, quand je suis au boulot, quand je suis... C'est autre chose. Et ces livres, il y a beaucoup l'idée que non, Dieu, c'est toute la vie. Il n'y a pas de religion. Dieu veut une relation avec nous. Toute la vie le concerne. Il nous donne des indications sur toute la vie. Il y a des choses sur... il parle de, je sais pas moi, de poids, de mesure, des choses... C'est du commerce, c'est des choses pratiques de la vie, vraiment des choses pas juste du dimanche et de la théologie un peu abstraite, mais des choses pratiques de quand tu cuisines, fais ça, si t'invites un ami à la maison pour lui donner à manger, ça va être mieux, enfin des idées vraiment pratiques dans la vie, et y a c'est vraiment incroyablement riche à, encore une fois, à méditer. Tous ces livres des poésies, il y a beaucoup de on a dit que c'était des livres de sagesse, et ce sont des livres qui comme je vous disais, vraiment font de nos vies un ensemble complet, quoi. Et c'est d'ailleurs un des points peut-être faibles de notre monde moderne, c'est notre manière de partitionner nos vies, d'avoir différentes on peut avoir notre profil Facebook, c'est un aspect, puis on a notre vie avec notre famille, puis notre vie en boulot, puis on a pris cette habitude d'avoir un petit peu nos trucs, et puis même au niveau de la foi, il y a au niveau des religions, les gens vont dire moi je pense ça à propos de ça et ça à propos de ça, et en fait tu leur dis mais ça colle pas, si on suit la logique de l'un, ça marche pas avec l'autre, mais on a pris cette habitude de dire un petit peu ce qu'on voulait, de voir. Et au final, on finit avec des vies qui sont assez désunies. Et je pense que c'est des choses qui pèsent aussi sur nos vies, sur ma vie. J'ai le sentiment parfois que c'est des choses qui me fatiguent, qui me pèsent. Et Dieu veut que nos vies soient quelque chose d'harmonieux, avec une unité. Et ça revient dans ces livres de sagesse, cette unité. Une autre marque que j'ai oublié de peut-être en introduction et à laquelle je pensais en disant ça, c'est l'idée que ces livres de sagesse sont des livres qui s'expriment de manière assez universelle à l'homme. On a vu dans les livres précédents que c'était beaucoup très lié à la nation juive, au peuple, à ce que Dieu leur avait dit, que c'était très lié aux rites religieux, à ce qu'il leur avait dit de faire, etc., etc. Et là, les choses qui nous sont présentées dans ces livres, c'est beaucoup plus de l'ordre de « je suis humain », voilà des vérités sur la vie humaine qui s'appliquent à tout le monde. Et il n'y a pas forcément cette distinction. Évidemment, c'est écrit dans le contexte de la Bible et de l'histoire du peuple d'Israël, mais ces livres sont plus universel dans leur portée et dans leur manière de parler aux hommes. Et je pense aussi que ce sont des livres qui ont affecté la culture occidentale de manière assez incroyable, de se dire que c'est des livres qui les écrivains, les artistes de notre histoire sont souvent des gens qui avaient ces images et ces choses dans ces textes bien en tête et avaient passé du temps dans leur éducation à être imprégné de ces choses, et que ça a beaucoup affecté l'art et la culture occidentale. On va passer à l'Ecclésiaste, qu'on a étudié à l'église l'année dernière. Pour ceux qui étaient là avec Pierre, on a passé en pas mal de détails. Il y a les enregistrements en ligne si jamais ça vous intéresse. C'est une méditation poétique écrite par Salomon à la fin de sa vie et qui parle sur le sens de la vie. Salomon, évidemment, était très riche était assez tranquille au niveau de sa vie. Et ce livre, en quelque sorte, c'était un petit peu une expérimentation où il se disait, bon, je vais essayer telle et telle chose et voir où ça me mène. Et voir la conclusion de ces styles de vie. Ecclésiaste, ça veut dire prédicateur ou chef d'assemblée. Et ça donne vraiment une grande perspective sur la valeur de nos vies et de ce qu'on peut essayer d'atteindre comme objectif dans la vie sur Terre. Et le terme qui revient, que Pierre a bien appuyé, c'était l'idée de « sous le soleil ». C'est l'idée qu'on est... C'est si on essaie de vivre sans prendre Dieu en considération, il y a certaines choses qu'on peut essayer de faire pour donner du sens à nos vies. Et il a essayé ces choses, et sa conclusion, c'est que si on s'attache qu'à ces choses sans prendre Dieu en considération, alors ça n'a pas de poids, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de sens. Et le terme qui est connu dans la culture, c'est vanité des vanités. C'est l'idée que c'est vanité des vanités, c'est, ça n'a pas d'importance, c'est voilà. Et donc il essaie de pousser quelques réflexions. Il va regarder 10 vanités différentes, ce qu'il appelle des vanités, la sagesse humaine, le travail humain, s'attacher à son travail, être à fond dans le travail, les buts ou les objectifs humains, ce qu'on pourrait, il y a plein de choses, la rivalité humaine, les luttes, l'avidité ou l'avarice humaine, avoir de l'argent, beaucoup d'argent, la renommée parmi les humains, être célèbre, le désir, les envies, différentes envies ou désirs, plutôt de la chair, des choses physiques, qui peut être liées aussi au neuvième, c'est les fêtes humaines, l'idée de s'amuser, de faire la fête tout le temps, ou peut-être les récompenses humaines, avoir de la... peut-être des... de la... comment on pourrait dire, de la... pas de la reconnaissance, mais de la satisfaction. Et sa conclusion par rapport à ces choses, c'est que finalement ces choses n'ont pas de valeur, et ça, on va dire, ça, sa conclusion, c'est que dans l'homme, il y a le sens de l'éternité. Dans nos cœurs, on sent qu'il y a quelque chose au-delà, et on a envie d'aller au-delà. On a envie de dire, ben, je vais... Et souvent, on voit, parfois, quand on a des vies simples, on se dit, bon, ben, mes enfants vont suivre, ou ma sagesse, ou si je vis vraiment de manière incroyable, alors on se souviendra de moi, ou si je fais quelque chose d'incroyable, alors on se souviendra de moi, ça ira un peu au-delà. Et il dit, ce sens de l'éternité, et il dit, on a envie que ça aille, qu'on puisse faire quelque chose qui aille au-delà. Et toutes ces choses, en fait, face à la mort, tombent à plat. Et face à l'éternité, il y a aussi cette idée que c'est Dieu qui cause cette éternité, et que s'il y a Dieu et l'éternité, que si nos objectifs, c'est simplement ce qui se passe ici sous le soleil, ça va pas nous satisfaire, et ça va pas aboutir à quelque chose qui a une grande valeur, ça va pas vraiment nous donner un sens à la vie. Et c'est un livre qui est difficile à lire, parce qu'on se dit, c'est un petit peu pessimiste quand on le lit, on a l'impression qu'il déprime, quoi. Bon, j'ai essayé de faire ça, finalement à la fin je meurs, donc c'est pas, ça a pas de sens, si j'essaie ça à la fin je meurs aussi, donc tant pis, voilà. Mais il y a des choses quand même positives, et sa conclusion, c'est craint Dieu et observe ses commandements. C'est ça qui est le plus important. Encore une fois, il ne dit pas que ces choses-là et que les choses que Dieu a faites qui sont bonnes sont des choses qu'on doit éviter, qu'on ne peut pas non plus apprécier et profiter des choses que Dieu nous donne, mais que c'est simplement, ça ne doit pas être des choses qui sont l'objectif final de nos vies. Il dit, c'est dans Ecclésiaste 12, 13, « Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là tout l'homme. » Et c'est intéressant parce que c'est Jésus qui résume un petit peu ces choses si on regarde dans Matthieu 16. Matthieu 16, 23. 16, 26, pardon. Qui nous dit « Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Donc il y a cette idée de si on n'obéit pas à Dieu, si on ne suit pas Dieu et qu'on perd son âme, à quoi ça sert d'avoir tout gagné, tout ce qu'on peut gagner sur la terre. C'est Matthieu 16, 26. Et on peut regarder aussi dans Matthieu 6, 33. Il dit « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Et là aussi, c'est cette idée de priorité dans la vie. C'est la chose à rechercher, premièrement, c'est la justice, le royaume de Dieu. C'est de craindre Dieu et d'observer ses commandements. Et on va finir avec le livre de Cantiques des Cantiques. Qui est un poème lyrique sur l'amour conjugal. Et parfois c'est un petit peu surprenant si on tombe sur ce livre dans la Bible, on comprend pas. Il y a vraiment des descriptions très imagées de l'amour entre un homme et une femme. C'est vraiment un livre très beau. On pense qu'il a été écrit par Salomon. Et c'est l'histoire d'amour entre Salomon, qui est l'homme, et une femme qui, dans le livre, est appelée la Tsunamite. Et il y a l'idée, c'est une histoire qui est racontée où il y a une fiancée qui rêve de son bien-aimé, puis son bien-aimé qui arrive. Et les pensées, les choses qui sont exprimées l'un à l'autre par rapport à leur relation, la beauté de la fiancée qui est exprimée, puis la beauté de l'amour et des choses sur leur relation. Il y a eu pas mal d'interprétations sur ce livre, sur ce que ça représente. Alors certains, comme je vous disais, mouvements d'église dans l'histoire ont du mal avec l'idée que Dieu a fait la bonne nourriture et qu'on s'amuse, et donc ils essaient de dire non, c'est pas vraiment il faut quand même pas qu'ils parlent d'amour physique, et en fait ils parlent de l'amour de Dieu pour la nation juive ou l'amour de Dieu pour l'église et essaient de le. Mais je pense que premièrement, c'est vraiment la relation conjugale, c'est ça qui est exprimé, et c'est un livre plein de beauté à ce niveau-là, et qui a aussi sans doute des idées au niveau de l'interprétation. Le reste de la Bible nous parle de l'Église comme étant l'épouse de Jésus, donc évidemment, on peut trouver des parallèles, des images et des choses qui se complètent par rapport au livre de Cantiques des Cantiques. Ça donne des choses très pratiques sur le couple et sur les relations dans le couple. C'est un livre qui est très beau. Oui.
Justement, on était chez les Farbeaux dimanche et on parlait de ça par rapport au sexe avant le mariage. Et Sandra nous disait, mais attends, quand t'es fiancée, tu peux cohabiter avec ta personne, puisque regarde le cantique des cantiques, c'est une fiancée. Mm-hmm. Et l'Église, elle dit quoi là-dessus?
Bah, qu'elle n'est pas d'accord du tout.
Mais non, mais on s'est battu, quoi. Mm-hmm. On a dû prier avant de partir tellement on s'était pas mis d'accord, quoi. Mm-hmm. C'était terrible. Bah... Du coup, ils disent que l'Église prend ce livre pour le livre de l'amour et ils le citent tout le temps comme l'amour charnel, mais c'est pas un amour légitime de nos jours dans ce monde. Donc du coup, il y a un problème quand même, c'est pas en accord.
Bah après, il y a différentes choses dans le sens où il y avait un rituel très précis au niveau du mariage à l'époque. D'accord. C'était pas juste, il y avait des choses qui se passaient avant qu'ils se marient. Ensuite, on n'y voit pas de description claire en disant ils ont couché ensemble avant le mariage. C'est pas exprimé. Ils expriment le et on peut très bien avant le mariage dire en détail avoir des pensées et se dire que sa femme est très belle, que son mari est beau et avoir ces pensées, ces choses qui sont exprimées.
Et donc
il y a en aucun cas l'idée que
l'action c'est toujours les pensées qui sont
là c'est de l'ordre de la pensée, donc il n'y a pas d'action, il n'y a pas de choses clairement exprimées à ce niveau là donc je m'opposerai très clairement à ça et je dirais aussi que quand on voit, parce qu'il faut toujours une fois remettre les choses dans leur contexte, notamment dans ces livres de poèmes et lyriques où il y a beaucoup de choses imagées et où par exemple dans l'Ecclésiaste, si on prend un livre, si on tire quelque chose hors de son contexte sans comprendre le livre complet, sans comprendre qui a écrit et comment ça a été écrit et l'objectif de ce qui a été écrit, il y a des choses qui ne correspondent pas au message complet de la Bible. Il y a des choses qui sont exprimées, qui vont à l'encontre et qui sont réfutées plus tard. Et quand on sait que si c'est Salomon qui a écrit et qu'il avait 300 femmes et 700 concubines, il y a aussi des choses à ce moment-là. On peut dire que si on veut tirer ces choses hors de leur contexte, on peut aussi dire que la Bible dit que la polygamie est très acceptée et que c'est bon, quoi. Donc il faut se rappeler aussi que Dieu les reprend, Jésus les reprend dans le Nouveau Testament en disant non, c'est les choses qui ont été acceptées dans l'Ancien Testament, c'est à cause de la dureté de votre cœur et de votre péché. Dieu, son idée principale, c'est ce qu'on avait vu dans la Genèse, c'est l'homme et la femme, deux, qui sont unis et qui deviennent un en Dieu. Et donc ces livres, parfois aussi, il y a un petit peu de difficulté parce qu'on Job, si on regarde certains des discours des amis de Job, on se dit mais c'est quand même assez noir ou c'est on a du mal à comprendre si on les lit dans leur petit contexte. Mais quand on regarde le panorama, ok, que dit le livre de Job et qu'est-ce qui se passe sur tout le livre, là on comprend mieux. Et sur des livres avec les psaumes, c'est un petit peu, il y a des questions aussi dans les psaumes, des choses qui sont parfois on a du mal à comprendre. Et ce que je vous disais avec Job qui crie à Dieu, qui dit je comprends pas, dans les psaumes, il y a aussi des choses où David dit j'ai envie de Dieu détruit mes ennemis, écrase-les, enfin zigouiller tous vraiment, et on se dit c'est pas vraiment les sentiments que Dieu, dans notamment Jésus dans le Nouveau Testament où il dit non tant l'autre joue etc, enfin il y a des choses aussi mais ça colle pas. Et il faut aussi voir que c'est des choses imagées aussi. Si vous prenez des poésies en français, on comprend que parfois c'est on utilise de l'image pour exprimer des sentiments et des choses, mais que c'est pas du au sens propre. Et donc ça donne lieu à parfois des interprétations que je considérais comme mauvaises. Là aussi, ça peut être ouvert à débat, et on doit rester humble face au texte biblique et à la réalité qu'il y a certaines choses qu'on a du mal à comprendre. On avait une amie, par exemple, il y a quelque temps, dont le père est décédé à un certain âge, Et dans les psaumes, il est marqué que si le juste vivra jusqu'à 60 ans, et s'il est vraiment fort, il vivra jusqu'à 70 ans. Et le papa de cet ami était mort à 55 ans, et quelqu'un lui avait dit, donc, ton père n'était pas sauvé, parce que le juste vivra jusqu'à 60 ans. Et c'est l'exemple type pour moi de quelqu'un qui prend un psaume où ce qui est dit, c'est quelque chose d'imagé. On dit, si le juste est vraiment fort, il vivra vieux. Et s'il est vraiment, vraiment fort, il vivra très vieux. Mais prendre littéralement, dire 60, et on dit, mais à ce moment-là, Jésus, il est mort à 33 ans, donc il n'était pas juste. Les apôtres, ils ne sont pas morts à 70 ans, est-ce qu'ils étaient... Et donc, il y a des choses comme ça, et ces livres, parfois, nous posent des problèmes. On lit et on dit, c'est un peu bizarre quand même par rapport au sentiment général. Mais c'est des livres qui nous rappellent aussi la réalité humaine face à la réalité divine et la réalité de qui nous sommes, des êtres imparfaits par rapport à un Dieu parfait. Et qui sont des livres aussi qui nous montrent la lutte que l'homme peut avoir pour essayer de comprendre Dieu. Et cette relation entre Dieu et les hommes qui est pour nous difficile parce qu'on n'est pas parfait et parce qu'on est souvent en situation de lutte où on essaye mais on n'y arrive pas et on est dans des situations qu'on ne comprend pas. On pense, Dieu, tu es bon, donc ça veut dire que tout devrait aller bien et il ne devrait pas avoir de mal, alors je ne comprends pas pourquoi, etc. C'est ces sentiments qui peuvent nous habiter. Et ces livres sont vraiment pleins de beauté à ce niveau-là, de la réalité de la condition humaine.
Voilà, c'est dommage qu'il y a beaucoup d'églises qui aussi changent le message. Tu vois, ils interprètent d'une certaine manière pour leur profit, quoi.
Ah, on est tous... on peut tous tomber là-dedans, de prendre des choses et de leur faire dire des choses que Dieu ne voulait pas qu'ils disent. Et on doit avoir une humilité par rapport au texte biblique et prier Dieu et réfléchir à ces choses. Et c'est pour ça aussi que c'est important de prendre ces livres et aussi de les recoller dans leur contexte individuel et aussi dans le contexte de toute la Bible, de savoir... Et c'est parfois difficile parce que ça demande du travail. Des fois, on a envie de juste lire un petit bout et être tranquille. Et parfois, il y a besoin de creuser un petit peu plus et d'arriver à recoller les choses dans leur contexte total ou par rapport à d'autres vérités de la Bible et se dire, la Bible nous dit ça, voilà le message de la Bible et comment est-ce que j'articule cette idée-là par rapport à ça. Et c'est pour ça aussi que c'est important de prendre du temps et de réfléchir à ces choses et de les digérer un petit peu. Mais comme on voit dans les proverbes, dans les choses qui sont dites, il y a cette idée que ça en vaut le jour en vaut la chandelle de savoir ces choses et que ça va nous donner une comment je pourrais dire une richesse ou une foi forte en Dieu et par rapport à la vie qui va nous donner une assise dans la vie, pas être balayé chaque fois qu'il nous arrive un truc de se dire mais Dieu je laisse tomber, j'ai rien compris, c'est des choses très riches et on a vu ça très rapidement pour ce soir donc